aujourd'hui à Washington.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibour avec vous en direct du studio 9 de La Voix de l'Amérique à Washington. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir, le président Donald Trump a dit qu'il n'y a eu aucune victime après les frappes iraniennes sur des bases américaines en Irak. Londres, Berlin et l'OTAN condamnent les tirs iraniens. La Chine appelle à la retenue. Un avion ukrainien s'est écrasé à Téhéran peu après son décollage. Il n'y a eu aucun survivant. En France, un garçon d'une dizaine d'années a été retrouvé mort dans le train d'atterrissage d'un avion parti d'Abidjan. En RDC, l'université de Kinshasa est fermée jusqu'à nouvel ordre. Après des manifestations d'étudiants, deux policiers ont été tués. Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Le président Donald Trump, dans un ton mesuré mais ferme, affirme que l'Iran semble avoir reculé. Il a néanmoins annoncé que de nouvelles sanctions seront imposées. Nous faisons le point avec Abdourahmane Dia.
Le président américain a commencé son discours à la nation en précisant qu'il n'y avait aucune victime dans les tirs de missiles iraniens visant deux bases abritant des troupes américaines en Irak. Il s'est aussi félicité du fait que, selon lui, l'Iran semble avoir reculé, mais promet qu'aucune action de déstabilisation venant de l'Iran ne sera tolérée à l'avenir.
For far too long, all the way back to 1979 to be exact.
Pendant longtemps, depuis 1979 pour être précis, les nations ont toléré l'attitude de destruction et de déstabilisation au Moyen-Orient et au-delà. Cette époque est finie. L'Iran a toujours été un État sponsor du terrorisme et il cherche à obtenir l'arme nucléaire, ce qui est une menace au monde civilisé. Nous ne le permettrons jamais.
Le président Trump a demandé aux pays qui sont encore dans l'accord sur le nucléaire iranien de se retirer pour permettre de nouvelles négociations qui aboutiraient à un nouvel accord. Il a aussi annoncé de nouvelles sanctions contre l'Iran. Il a terminé son discours en disant qu'il est pour la paix et souhaite le développement et la prospérité de l'Iran.
L'Iran a donc tiré hier des missiles balistiques sur des bases américaines en Irak en représailles à l'assassinat du général Qassem Soleimani. Nous faisons le point sur les réactions dans le monde avec John Hinden.
Le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, dit que c'est une gifle à la face des États-Unis, prévenant que ce n'est pas suffisant. Pour lui, il faut que prenne fin la présence des États-Unis dans la région. « Nous ne cherchons pas l'escalade ou la guerre, mais nous nous défendrons », a déclaré le chef de la diplomatie iranienne. Si l'Amérique veut commettre un autre crime, elle doit savoir qu'elle recevra une réponse plus ferme encore, a pour sa part prévenu le président Hassan Rouhani. Le premier ministre démissionnaire irakien Adel Abdel Mahdi a indiqué avoir été prévenu de l'imminence des tirs irakiens par un message verbal de Téhéran. Les présidents turcs Recep Tayyip Erdogan et russe Vladimir Poutine ont appelé toutes les parties à agir avec retenue. Londres estime que l'Iran devrait œuvrer en faveur d'une désescalade urgente. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a averti « Quiconque attaque Israël recevra une riposte retentissante ». Chypre a donné son accord à Washington pour que temporairement une unité de réaction rapide se serve de son sol pour évacuer des missions diplomatiques américaines et des citoyens américains.
La Chine a par ailleurs appelé aujourd'hui à la retenue après ces attaques. Il n'est dans l'intérêt d'aucune partie que la situation au Moyen-Orient s'aggrave encore, a averti un porte-parole de la diplomatie chinoise, Geng Shuang. La Chine est l'une des parties de l'accord sur le nucléaire iranien signé en 2015. Pékin est aussi l'un des principaux importateurs de brut iranien. Bagdad a annoncé aujourd'hui qu'il allait convoquer l'ambassadeur d'Iran pour une violation de sa souveraineté après le tir par Téhéran de 22 missiles sur des bases irakiennes abritant des soldats américains. L'Irak est un pays indépendant, je cite, et nous ne permettrons pas qu'il devienne un champ de bataille, a ajouté dans un communiqué le ministère irakien des Affaires étrangères. Par ailleurs, un Boeing 737-800 de l'Ukraine s'est écrasé moins de 3 minutes après son décollage à Téhéran, faisant 176 morts, essentiellement des Iraniens et 63 Canadiens. Nathalie Barge.
Le premier ministre canadien Justin Trudeau a appelé à une coopération internationale pour veiller à ce qu'une enquête approfondie soit menée. La Convention de Chicago de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale prévoit que la responsabilité d'une enquête incombe à l'État où s'est produit l'accident, en l'occurrence l'Iran. L'État où a été conçu et construit l'appareil, ici les États-Unis, et l'État de l'exploitant, qui est l'Ukraine, ont la faculté de désigner un représentant accrédité pour participer à l'enquête. L'avionneur américain Boeing a indiqué être en contact avec la compagnie ukrainienne et se dit prêt à apporter son assistance. Mais l'Iran a dit refuser d'envoyer les boîtes noires aux États-Unis, tout en indiquant que les Ukrainiens pourront participer à l'enquête. L'OACI prévoit par ailleurs que le pays où s'est produit l'accident puisse se décharger de l'enquête au profit d'un État tiers. Les Pays-Bas avaient ainsi mené les investigations en lieu et place de l'Ukraine sur le crash du Boeing de Malaysia Airlines, abattu par un missile au-dessus du territoire ukrainien en 2014, faisant 298 morts.
En France, l'ancien président Nicolas Sarkozy sera jugé pour corruption et trafic d'influence en octobre. C'est la première fois qu'un ancien président français sera jugé pour corruption. Nicolas Sarkozy est soupçonné d'avoir tenté d'obtenir des informations confidentielles d'un magistrat. Et puis au Canada, une personne est morte et trois autres ont été gravement blessés dans une fusillade qui a éclaté ce matin dans une rue résidentielle du centre d'Ottawa, proche du Parlement fédéral. La situation est sous contrôle, mais un suspect a pris la fuite.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le corps d'un jeune garçon a été retrouvé tôt ce matin à l'aéroport parisien Roissy-Charles de Gaulle. Il s'était caché dans le train d'atterrissage d'un Boeing d'Air France reliant Abidjan à Paris. Plus de détails avec Ekia Badou.
L'avion a décollé d'Abidjan mardi soir et s'était posé peu après 5 heures en temps universel à Paris. Le corps légèrement vêtu a été découvert moins d'une heure après dans le train d'atterrissage de l'appareil. Un porte-parole de la compagnie aérienne a confirmé la mort d'un passager clandestin sans préciser son âge et déploré un drame humain. Selon plusieurs sources, il pourrait être âgé d'une dizaine d'années. Pour une source sécuritaire ivoirienne, au-delà du drame humain, cela indique une faille de sécurité majeure à l'aéroport d'Abidjan, se demandant comment un enfant d'une dizaine d'années a pu accéder à un avion et s'il a bénéficié de complicité. Le parquet de Bobigny a indiqué avoir confié à la gendarmerie des transports aériens une enquête. Ces dernières années, plusieurs passagers clandestins, notamment des adolescents en provenance d'Afrique, ont été retrouvés morts de froid ou écrasés dans les soutes de trains d'atterrissage.
Au Burkina, 4 élèves d'une école coranique de Ouagadougou ont été blessés, dont 2 grièvement, par l'explosion d'une grenade. Selon un enseignant de l'école, Tidiane Ouedraogo, on ne sait pas si la grenade était dans les mains des élèves ou si c'est quelqu'un qui l'a jetée dans la classe. L'école est située dans le nord de Ouagadougou qui accueille de nombreux déplacés. Au Nigeria, 3 soldats ont été tués, 8 autres blessés dans une attaque suicide perpétrée hier après-midi par des djihadistes à Monguno, à 135 km au nord de la capitale de l'État de Borno, Maïdougouri. Toujours au Nigeria, 2 Russes et 1 Indien, membres d'équipage d'un navire pétrolier, ont été libérés. Ils avaient été kidnappés la semaine dernière par des pirates au large des côtes nigérianes. Situation très tendue sur le campus de l'université de Kinshasa en RDC. Tout étudiant sera considéré comme un ennemi de la République s'il se trouve encore jeudi sur le campus après son évacuation par les forces de l'ordre suite à des affrontements qui se sont soldés par la mort de 2 policiers. Nous y reviendrons dans la seconde partie de cette édition. 9 prisonniers rwandais ont été libérés en Ouganda aujourd'hui en signe de bonne volonté alors que les tensions sont vives depuis plusieurs mois entre les deux voisins. Les relations entre ces anciens alliés se sont envenimées jusqu'à ce que les deux pays s'accusent mutuellement d'espionnage, d'assassinat politique et d'ingérence. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco, présentée ce soir par Nani Talani.
En Éthiopie, Kefiman Rose obtiendra ce mois-ci 9,5 millions de dollars auprès de son partenaire Ons Mining pour lancer son projet aurifère Tulu-Kapi. La première phase comprendra entre autres la réinstallation des populations affectées par le projet. L'entreprise, qui maximisera la participation locale dans tous les aspects du projet, a déjà construit une école, fourni un approvisionnement en eau locale et lancé un projet de formation. Kefiman Rose possède 95% d'intérêt dans le projet Tulu-Kapi et les 5% restants sont détenus par le gouvernement éthiopien. La mine héberge des réserves de minerais de plus de 15 millions de tonnes, dont 1,1 million d'onces d'or. Les recettes d'exportation d'or de la Tanzanie ont atteint 2,14 milliards de dollars en 2019, contre 1,51 milliard de dollars à la même période en 2018, soit une augmentation de 12%. La Banque centrale tanzanienne explique cette hausse par les volumes expédiés rendus possibles grâce aux nouvelles mesures du gouvernement visant à gérer efficacement les activités minières.
Et maintenant, la page sport, présentée ce soir par Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Claire, bonsoir à tous.
L'attaquant sénégalais Sadio Mané, ballon d'or du meilleur joueur africain de 2019.
Sadio Mané.
C'était hier soir au cours d'une cérémonie à Hurghada en Égypte. Le joueur de Liverpool de 27 ans devance son équipier égyptien Mohamed Salah et l'Algérien Riyad Mahrez. Riyad Mahrez, capitaine, est l'un des principaux artisans de la victoire des Fennec lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Et c'était la première fois que Mané décroche cette récompense.
Je suis tellement fier, comme tu l'as dit, Samuel. C'est un grand jour pour moi et je suis vraiment content. Je suis vraiment content encore une fois. Bonne soirée à tous et j'espère que...
Félicitations.
Tout le monde a fait du plaisir.
Et à Dakar, la nouvelle du sacre du lion de la Teranga était très attendue. Écoutons quelques réactions dans les rues de Dakar. Au micro de notre correspondant Seydina Abagué.
Ben, je pense que c'est simplement mérité. Parce que aussi, quoi qu'on dise, Sadio était sur la bonne pente, ça fait maintenant 3 ans. L'année dernière même, on disait peut-être qu'il était bien prétendant à cette course de Ballon d'Or. Donc cette année-ci, c'est la bonne pour lui. Et bon, on s'en réjouit.
Ça m'a fait plaisir. Parce qu'on a toujours rêvé que Sadio Mané devait être ballon d'or européen. Mais comme qu'il est ballon d'or africain, ça nous a fait plaisir.
Je dirais un ouf de soulagement. Très sincèrement, on l'attendait avec impatience, ballon d'or. Et Sadio est vraiment une fierté pour notre pays. Et c'est tout le mal que nous lui souhaitons, en tout cas, qu'il puisse devenir un jour notre ballon d'or international.
Il nous avait promis ça à Dakar, il l'a fait en Égypte. Vu la saison qu'il a réalisée, la saison 2018-2019, c'est vraiment mérité. Nous lui souhaitons bon vent et que d'autres récompenses individuelles y suivent.
Pour la catégorie femme, Aziza Oshoala, la Nigériane, a été désignée joueuse africaine de l'année pour la 4e fois, égalant le record de sa compatriote Perpetua Nkuosha. Elle a récolté 351 voix, 30 de plus que l'attaquante camerounaise Adjara Nchout et Tembi Ngatlana, qui avait 247 voix. Pour l'Interclub de l'année, Youssef Belaïli a remporté le prix suite à sa brillante performance pour son club en Ligue des champions de la CAF avec l'Espérance. Le prix du jeune joueur de l'année a lui été décerné au Marocain Achraf Hakimi, tandis que Jamel Belmadi et Désiré Ellis ont respectivement été choisis entraîneurs de l'année côté masculin et féminin. Notons également que Moïse Katumbi, président du TP Mazembe en RDC, a été désigné meilleur président de club sur le continent.
La prochaine CAN pourra se tenir en hiver.
Oui, c'est une info de nos confrères de l'équipe qui croient savoir que la décision de la CAF de faire jouer la CAN en hiver est déjà prise, et plus précisément entre le 15 janvier et le 14 février. Ils soulignent que ce réaménagement a été fait afin de permettre à la FIFA d'organiser la Coupe du Monde des clubs nouvelle formule en été. Selon l'équipe, la Confédération africaine de football annoncera dans les prochaines semaines les dates de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, qui se disputera en 2021 et en principe au Cameroun.
Merci Bagassi.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, place au dossier du jour. En République démocratique du Congo, les activités sont suspendues à l'université de Kinshasa. Les étudiants sont priés de déguerpir du campus après de violentes manifestations qui se sont soldées par d'énormes dégâts matériels et des cas de blessures sérieuses parmi les forces de l'ordre et des manifestants. Eddy Sango a joint à Kinshasa le porte-parole du gouvernement, le ministre Jolino Makelele.
On a décidé que les étudiants puissent déguerpir le campus. Les cours sont suspendus et ce temps sera mis à profit pour recenser tous les étudiants qui sont en règle et qui le sont effectivement. Cela va regagner dans les jours qui viennent le campus et ceux qui n'auront pas été en règle, naturellement, ne seront pas autorisés à fréquenter les campus.
Est-ce que y a un bilan de troubles qui ont eu lieu depuis dimanche à l'université de Kinshasa?
Le seul cas flagrant qu'on a eu, c'est celui de la blessure d'un policier, blessure grave consécutive à un lynchage qui a eu lieu au niveau du campus. Et c'est la raison pour laquelle, parce que nous sommes convaincus que les étudiants sont vrais, mais ça ne donne pas ce genre d'exercice, et que c'est sûrement des gens qui sont infiltrés, qui n'ont pas la qualité d'étudiant, qui s'adonnent à ce genre d'exercice. Et la police a interpellé certaines personnes, et il y a aussi les services qui font leurs études pour s'assurer que la situation est calme et qu'on ne reviendra plus à ce genre de situation.
On parle de deux policiers décédés lors de ces troubles.
Bon, on n'a pas un bilan faisant état de mort au niveau de ces incidents. Il n'y a pas contre un policier grièvement blessé et donc qui est entre la vie et la mort. Ça, c'est une nouvelle sûre.
Est-ce que le gouvernement résout les problèmes qui est la revendication des étudiants du rabais de frais qu'ils devraient payer qui ont été revus à la hausse?
Le chef de l'État a décidé lui-même de prendre à bras le corps ce sujet. Il va rencontrer dans les heures qui viennent les représentants des étudiants pour voir dans quelle mesure ce qui avait été convenu entre les étudiants et les corps enseignants a été ou non respecté. Parce que ne l'oublions pas, il s'agit des engagements qui ont été pris entre les représentants des professeurs, les représentants du corps scientifique et des délégués des étudiants. Maintenant, on verra dans quelle mesure cette décision a pu ne pas rencontrer l'assentiment de tous les étudiants. Et tout cela fera l'objet dans des explications que les étudiants auront à donner au président de la République. Le président de la République avisera après avoir écouté tout cela.
Quand les activités pourraient-elles répondre à l'université de Kinshasa alors?
Ce sera rapidement. Donc une fois que la mesure de déguerpissement aura eu lieu, elle sera en train d'exécuter. Elle est d'ailleurs en train d'être exécutée. Et après, on fera appel aux étudiants.
Regagner leur logement, mais on sait que les conditions de vie et d'études là-bas sont insupportables. Hein. Je ne sais pas, est-ce que le gouvernement pense
Là, vous abordez un autre aspect du problème. Et donc, c'est petit à petit que nous commençons. Nous commençons par l'enseignement primaire. Vous avez vu que nous avons fait un effort gigantesque pour mettre tous les enfants, y compris, surtout, des parents démunis, en situation d'être scolarisés.
C'était Jolino Makelele, porte-parole du gouvernement de la RDC.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, la tension entre les États-Unis et l'Iran est montée d'un cran après la mort dans un raid américain en Irak du général iranien Qassem Soleimani. Téhéran promet de venger l'ancien chef des forces Al-Quds, des puissants guerriers de la révolution, et a annoncé dans la foulée qu'il ne respecterait plus ses engagements sous l'accord de 2015 sur son programme nucléaire. De son côté, le président Trump a indiqué que 52 cibles iraniennes ont été identifiées pour des frappes en cas de riposte. Nous allons évoquer la genèse de la crise entre Washington et Téhéran ce jeudi à 19h, temps universel, sur VOA Afrique. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
Les exilés et réfugiés d'Afrique du Sud se verront retirer leur statut s'ils se livrent à des activités politiques. Ils seront alors traités comme des personnes en situation illégale et dans certains cas immédiatement expulsés. Telles sont quelques conséquences des nouvelles lois en vigueur depuis le 1er janvier en Afrique du Sud. Timothée Donangmaï a joint à Durban Léon Katambwe, ressortissant de la RDC, membre de la coalition des Congolais pour la transition.
ils viennent de sortir de l'apartheid et ils étaient en Angola, ils étaient au Mozambique, ils étaient au Zimbabwe, ils étaient en Zambie en tant que réfugiés et en train de faire et d'exercer des activités politiques. Ils doivent comprendre que l'Afrique est remplie de dictateurs. Et nous, en tant que réfugiés en dehors de nos pays, nous sommes la voix des sans-voix. Quand vous êtes dans un pays où il y a un dictateur, vous ne pouvez pas ouvrir votre bouche. Mais quand vous fuyez, vous êtes à l'extérieur, vous avez cette attitude-là de plaider pour ceux qui sont restés parce qu'ils sont dans le feu. Et toi qui es en dehors du feu, tu peux plaider leur cause. Et lorsque ces pays interdisent les activités politiques, c'est inacceptable. D'ailleurs, nous avons déjà amorcé les actions pour voir les avocats des droits de l'homme pour qu'on puisse barrer la route à cette loi qui est déjà promulguée d'ailleurs.
Oui, selon vous, M. Katamboui, comment s'explique cette décision des autorités sud-africaines d'introduire ces lois?
Ah bon, je ne sais pas, je ne comprends pas parce que bon, pour eux, ils ont généralement intérêt à défendre bon, leurs amis qui sont comme président en Afrique. Je peux donner un exemple ancien. Ils étaient amis à l'ancien président de Zimbabwe, Robert Mugabe. Alors, lorsqu'ils ont vu les réfugiés zimbabwéens en Afrique, ils étaient en train de combattre le régime de Mugabe. Ils n'étaient pas contents parce que pour eux, leur ami était Robert Mugabe. Donc, les gens que nous hébergeons ici doivent se calmer. Ils ne doivent pas faire le bruit pour combattre notre allié, notre ami qui est là-bas. C'est ce qu'ils font maintenant. Ils ont les amis partout en Afrique. C'est pourquoi ils veulent maintenant mater les ressortissants de leurs amis qui sont ici. Mais c'est qu'ils étaient contre même les droits de l'homme.
Quel est l'impact de ces nouvelles lois sur vos activités politiques?
C'est terrible parce que vous êtes muselés. Vous ne pouvez pas parler. Vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi je vous dis qu'il y a déjà les processus qui sont amorcés pour voir les avocats afin de combattre cette loi. Sinon, nous allons rester comme les gens dans les prisons. Et nous sommes la voix des sans-voix. Alors, les gens qui sont dans nos pays attendent de nous. Et si nous sommes maintenant comme en prison, automatiquement, ils ne seront pas sauvés.
C'était Léon Katamboué de la Coalition des Congolais pour la transition. Il était joint à Durban, en Afrique du Sud. Le salon de l'électronique de Las Vegas aux États-Unis offre chaque année l'occasion de se mettre au parfum de toutes les dernières avancées en matière de technologie grand public. Arzuma Compaoré est notre envoyé spécial sur place.
La ville de Las Vegas, connue pour ses lumières et ses machines à sous. Et cette semaine, comme chaque début d'année, la ville devient l'épicentre de l'industrie de la technologie mondiale et surtout le terrain d'essai par excellence pour les technologies de pointe et les innovateurs mondiaux. Plus de 4000 exposants et 170 000 participants ont fait le déplacement pour découvrir les nouvelles avancées technologiques.
Karen Chouka est la vice-présidente du CES.
Tout le monde veut se servir de la technologie pour être mieux connecté. Cela pousse les compagnies à réaliser que la technologie doit faire partie intégrante de leur mode d'opération.
Je suis présentement avec M. Arnaud Chéreau. Donc, il est de la start-up Willow. Il développe ce véhicule, cet engin, c'est un vélo à assistance électrique.
Il fait partie de la délégation française.
Comment l'idée de Willow est venue et puis pourquoi vous avez décidé de venir au CES?
Bonjour Arzuma, merci. Wello, on a pris le meilleur de deux mondes, celui du vélo et de la voiture, le côté compact, agile, économique et écologique du vélo, facile à stationner également, et puis le côté protection aux intempéries, assise confortable, capacité d'emport, connectivité de la voiture. En plus, on a ajouté des panneaux solaires qui lui permettent d'être autonome en énergie en fonction des différents états ou territoires.
Alors, l'autre élément qui me plaît beaucoup dans ce vélo assistance électrique, c'est le fait qu'à l'arrière, on peut transformer le siège arrière en un coffre qui peut transporter tous vos effets, vos condiments, vos vivres, par exemple. Plutôt génial, non?
C'est le tout premier CES pour Charmin, la marque de papier de toilette. Elle fait partie des produits présentés par la société Procter & Gamble. La marque introduit sur le marché un robot qui vous apporte un rouleau de papier de toilette à la demande.
Greg Weaver est un chercheur à Procter & Gamble.
Vous êtes sur les toilettes et vous réalisez que vous n'avez plus de papier et personne pour vous aider. Que faites-vous à ce moment? Vous sortez votre smartphone, vous activez votre Bluetooth et vous demandez au robot Charmin de vous apporter du papier, ce qu'il exécute aussitôt.
Plus d'un tiers des participants viennent de l'extérieur des États-Unis, à l'image de la société sénégalaise Dictave Corporation, qui a mis en place une plateforme en ligne SOS Agri afin de venir en aide aux producteurs sénégalais pour qu'ils puissent mieux protéger leur culture et développer leur entreprise.
Maman Dick aussi est cofondatrice et présidente de Dictave Corporation.
SOS Agri, c'est un outil numérique, digital, qui vient au secours des agriculteurs qui rencontrent des problèmes dans leurs champs. Et quand je parle de problèmes, on fait allusion aux problèmes majeurs rencontrés par les agriculteurs, c'est-à-dire les pertes de récolte. Donc nous sommes là pour apporter une solution, pour aider les agriculteurs à protéger leur exploitation.
Cette édition du CES marque également le lancement du Global Tech Challenge, fruit d'un partenariat entre le CES et la Banque mondiale. Ce nouveau concours se concentrera sur trois domaines clés, la santé, les barrières entre les sexes et les technologies qui permettent aux communautés d'être plus résilientes face aux catastrophes et aux changements climatiques. Chaque année, même si on croit avoir déjà tout vu, le Salon de l'électronique de Las Vegas nous rappelle que la technologie est en perpétuelle évolution et que c'est cela même son porteur principal. Arzuma Compaoré, VOA Afrique, Las Vegas.
L'année commence avec de nouvelles résolutions, promesses, mais aussi de nouvelles lois. Ainsi, l'État de New York affiche une série d'interdictions. Le gouverneur Andrew Cuomo a signé près de 700 décrets allant de l'aide aux immigrés à la protection des animaux. Nina Vishneva a dressé une liste des interdits de 2020 dans l'État de New York et ce qu'en pensent les New-Yorkais. Le récit est de Lionel Gaïma.
Premier sur la liste, les sacs en plastique qui seront interdits dans tout l'État de New York à partir de mars 2020. Des sacs en papier ou en tissu vont les remplacer. Les réactions.
C'est une bonne idée, ça aide l'environnement. Beaucoup d'États le font déjà, il est normal que nous fassions de même.
Pour l'instant, c'est plus facile, mais s'ils peuvent cesser de faire des sacs en plastique, ce serait cool. C'est incroyable. Eh bien, à partir de lundi, je ne vais plus les utiliser.
Le souci de l'environnement qui a inspiré ces décisions est aussi à l'origine d'autres interdictions. Il faudra payer pour se rendre en voiture dans les zones les plus embouteillées de Manhattan, tout en réduisant la pollution. Cette mesure ambitionne également de surmonter le cauchemar de la circulation au cœur de New York. Mais cette loi, qu'il entre en vigueur qu'en 2021, n'est pas du goût de tout le monde.
Non, je déménage à Jersey.
Sans cela, c'est si difficile. Je ne vais pas payer pour ça. Non, merci.
Les frais continuent d'augmenter. Cela aide la communauté et le quartier.
Des changements également en vue des amateurs de bonne bouffe qui devront dire adieu au foie gras. Le conseil municipal de New York a jugé cruel le gavage de canards. À partir de 2022, et malgré la colère des agriculteurs et des restaurateurs, les New-Yorkais devront choisir autre chose pour leur dîner. L'interdiction de la fourrure a déchaîné la passion au sujet des manteaux fourrés. Mark Houghton, PDG de la Fédération internationale de la fourrure.
Ces pièges sont approuvés au plan international. Nous avons signé ces conventions internationales. C'est généralement pendant un cycle de 10 à 15 ans que les gens ont un vrai manteau de fourrure.
Michael Dowling est radicalement contre les manteaux fourrés.
Je pense que la fourrure est cruelle, désuète et ne devrait pas être présente dans une ville progressiste comme New York.
Les habitants de Harlem rejettent également cette interdiction, mais pour d'autres raisons. Ils ont écrit au conseil municipal pour souligner l'importance de la fourrure dans la culture africaine-américaine. Environ 80% de manteaux de fourrure américains sont fabriqués dans l'État de New York. Plus de 10 000 personnes travaillent dans ce secteur, y compris des entreprises familiales actives depuis des décennies. Pourtant, à partir de 2020, New York refermera son chapitre sur la fourrure naturelle. Enfin, les émigrés de l'État de New York pourront acquérir un permis de conduire, quel que soit leur statut juridique. Ils ne pourront l'utiliser que pour conduire, pas pour voter ou prendre l'avion. Une autre loi rend obligatoire la vaccination de tous les enfants et étudiants, sauf contre-indication médicale. Elle supprime ainsi toutes les exemptions religieuses qui permettaient à des parents de ne pas vacciner leurs enfants.
c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique, à la mise en onde Lionel Gaïma, à la console Adrius Regus, au micro Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Restez avec nous. Tout de suite, un nouveau point sur l'actualité. Très bonne soirée à l'écoute de nos programmes.
VOA Afrique, les